Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le Forum de la presse. Comme chaque vendredi, retour sur l'essentiel de l'actualité qui a marqué la semaine. Et ce soir, nous allons parler de la situation sécuritaire, également des violences en milieu universitaire et de la décision de la FIFA par rapport à la situation du football malien. Nos invités, trois personnes, tous journalistes, Célia Dalmeida, Paul Ben et Makan Konaté. Je suis Mohamedou Touré. Tout de suite.
Le Grand Dialogue.
Nous allons commencer par la situation sécuritaire du pays. Célia Dalmeida, comment évolue-t-elle?
Merci de votre invitation à nouveau au studio Tamani. Bonjour à vos auditeurs. La situation sécuritaire, on va dire que c'est le statu quo, parce que rien ne se produit auquel nous n'étions pas... Aïe, j'allais utiliser un mot qui me fait mal au cœur, mais c'est vrai, auquel nous n'étions pas habitués. Parce qu'on commence malheureusement à s'habituer à ces secousses dans notre système sécuritaire. Les attaques se multiplient et la nouveauté est vraiment ce type d'attaque contre des élus, contre des notabilités. Et cela montre une volonté manifeste de déstabiliser le peu qui restait de l'administration, et non seulement de l'administration publique, mais de systèmes sociaux sur lesquels reposent nos communautés. Et cela est assez préoccupant. Et donc c'est une situation qui malheureusement va nous suivre en 2018 parce que c'est une année qui va être essentielle pour le Mali. Et on ne voit malheureusement pas de signes qui présagent d'une amélioration de ce climat sécuritaire.
D'accord. Paul Ben, il y a eu également l'arrestation d'un cerveau du groupe terroriste du Front de Libération du Massina, Sékou Bouly. Qu'en pensez-vous?
Bon, si c'est avéré que c'est un cerveau du FNL, ça c'est une bonne chose pour un peu les enquêtes. Mais je crois que, vous savez, aujourd'hui, on est vraiment préoccupé. J'abonde dans le même sens que ma consoeur, surtout au centre du Mali. Vous savez, la crise socio-sécuritaire, elle a commencé au nord, mais aujourd'hui, le centre du Mali... C'est très grave. C'est plus grave que ce qu'on connaît il y a quelques escarmouches au nord du Mali. Mais le centre du Mali est très préoccupant. Parce que là-bas, cette vague qu'on a connue en 2012. C'est ciblé maintenant. C'est ciblé et les gens, vous savez, je l'ai dit une fois ici, à Mopti, quand vous traversez le fleuve, vous n'êtes plus au Mali. C'est la charia qui règne. Les gens se promènent avec des fouets. Kalash aussi en bandoulière pour menacer les parents d'élèves, les élus, les administrateurs. Personne ne peut aller là-bas. Et le gouverneur de Mopti que j'ai entendu dernièrement vraiment se plaint du fait que les gens ne peuvent plus exercer leurs activités normalement. Et vraiment, c'est très préoccupant. Je souhaite que 2018 soit meilleur. Mais ce sera difficile. Ce sera très difficile. Il faut mettre des moyens assez conséquents. Il faut être pragmatique. Il ne faut pas faire du saupoudrage. Sinon, vous avez vu, en 2012, il y avait la crise. En 2013, on a vu l'intervention des forces étrangères. Mais aujourd'hui, les terroristes ont pris du terrain. Ils ont chassé même les forces étrangères qui ont plus de moyens des routes. Ils n'osent plus voyager par route. Ils voyagent par avion. Ils n'osent plus sortir comme ils le faisaient avant. Donc c'est préoccupant.
D'accord. Makan Konaté, une des dernières attaques, c'est celle de Niono, où il y a eu 6 morts, dont 5 djihadistes et un militaire malien, selon le ministère de la Défense. Qu'en pensez-vous?
Merci. Les attaques sont récurrentes par rapport à la crise sécuritaire. Vous savez, on nous a dit à un moment donné que ce problème sécuritaire au nord du Mali était plutôt dû à la religion. Que c'était une guerre, une sorte de djihad qu'on menait au nom de la religion. Ensuite, on nous dit que non, la crise, elle est économique. Mais de tout ça, quand vous regardez, à mon humble avis, je pense que cette crise sécuritaire, elle est plutôt économique. Parce qu'il y a une volonté manifeste de se détacher une partie du Mali pour une partie qui est considérée comme riche en ressources minières, mais c'est également une zone qui est considérée comme une zone de trafic de drogue, d'armes, etc. Donc, il y a de l'argent. Je pense que tout repose sur ça. Et c'est ceux qui se disent djihadistes, ceux qui se disent rebelles, vivent de ça. Donc, dire que la crise va finir, non, non, non. Ils font tout, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que cette crise-là perdure et que leur économie également prospère.
Quand vous parlez de détachement d'une partie, vous parlez du nord, du centre ou des deux?
Je parle du nord surtout. Je parle du nord. Ils veulent une partition du Mali pour consacrer cette partie-là à des trafics, et à des intérêts économiques. Ça ne vise que cela, pour moi.
Et au centre du Mali, il s'agit de quoi?
Bon, au centre du Mali, c'est une façon de mettre la pression sur les autorités maliennes. C'est une façon de mettre la pression, c'est une façon de disperser les efforts des autorités maliennes, de l'AMUNISMA et de Barkhane, faire croire à tout le monde que bon voilà, les djihadistes sont un peu partout. Tantôt ils attaquent au niveau du nord, tantôt ils attaquent au centre, tantôt ils attaquent même dans la capitale. Donc c'est une façon pour eux, à mon avis, de disperser les efforts pour ensuite mieux profiter des avantages économiques.
D'accord, Célia, oui.
Je voudrais rebondir à ce que dit Macan et de ce que disent d'ailleurs tous les deux de mes confrères par rapport à la situation au centre. Il est vrai qu'il y a des engins terroristes qui sont là-bas, dont on en parlait tout à l'heure du Front de Libération du Massina, mais il ne faut pas aussi éluder le fait que ces gens sont dans les communautés, ces gens sont issus des communautés. Ce n'est plus comme en 2012 où on a vu des gens arriver d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont des fils du terroir et qui sont allés apprendre ailleurs les tactiques qu'ils utilisent pour mettre sous leur coupe les communautés dans lesquelles ils vivent. Et ils y réussissent parce que, quoi qu'on dise, l'État n'est pas là. Ils y réussissent parce que l'État n'est pas là, parce que ceux qui représentent l'État dans ces communautés ont créé des situations de défiance entre les communautés et eux. Et donc ces gens viennent avec un discours qui leur permet d'être écoutés et d'avoir l'adhésion de ces populations avec l'aide du fouet ou de la calache. Donc il faut aussi qu'on voit cette réalité-là, qu'il y a un travail de fond à faire. La visite du Premier ministre il y a quelques semaines a donné un signal, mais il faut que ça continue. Il faut plus que les populations du Mali, de quel que soit le bourg qu'il soit, se sentent lâchées par l'État central. Et je pense que tant que ces gens auront le discours de « mais Bamako, vous n'intéressez pas Bamako, nous on est là pour vous apporter la sécurité, nous on est là pour réglementer un tant soit peu la vie sociale », ils auront des gens qui vont les écouter. Donc il y a un travail, au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a un travail aussi de travail dans les communautés à faire et qui, à mon avis, n'est pas suffisamment approfondi.
L'attaque de Niono est survenue au lendemain de l'annonce de l'arrestation de Sékou Boli. Peut-on considérer ça comme une riposte des djihadistes?
Oh, riposte des djihadistes, je ne sais pas, puisque on ne sait pas encore vraiment qui est-ce qui a mené cette attaque de Niono. De toutes les façons, comme justement toutes ces engences-là sont ensemble dans un front commun qui est le Génime, effectivement, on peut penser que c'est une façon de dire, mais vous ne nous abattrez pas comme ça. Ça peut être aussi un événement complètement isolé, puisqu'on sait que justement, comme ailleurs dans le monde, ces différentes entités donnent de la voix pour augmenter leur poids dans les groupes où ils sont ensemble. Donc ça peut être l'un comme l'autre des cas.
D'accord, Paul Ben, il y a des otages maliens aux mains des djihadistes. Il y a les Maliens qui ont arrêté un djihadiste, Sékou Boli. Peut-on s'attendre dans les jours à venir à un échange?
C'est toujours le sport favori de ces forces du mal. J'ai vraiment une pensée pieuse pour le juge de Niono et le CB de Nara qui aujourd'hui ne passeront certainement pas les fêtes de fin d'année et tous les autres otages au Mali et à travers le monde qui ne passeront certainement pas les fêtes de fin d'année avec leur famille. Vraiment une pensée pieuse pour eux. Je disais donc que on s'entendra à ça. C'est toujours le sport favori de ces gens. Ils font des négociations, ils veulent des concessions. D'ailleurs, ils l'ont dit. Le CB l'a dit. La volonté de ces gens, c'est d'échanger les otages. Vous savez, quand on est en position de faiblesse, quand les vies humaines sont en jeu, c'est très difficile de décider quoi. Mais espérons, souhaitons le meilleur pour tous ces gens. Et je voudrais, on est en fin d'année, je souhaite que les autorités politiques, administratives mettent un fort paquet dans la sécurité. Et moi, je vis 90% du temps à 1600 km de Bamako, dans une zone où l'insécurité elle est chronique. Si on met les moyens, ça peut marcher.
Mettre les moyens parce que vous pensez qu'ils peuvent mieux faire.
Bien sûr. Nous avons aujourd'hui, nos militaires sont aguerris. Ils ont été vraiment malmenés. Et aujourd'hui, ils peuvent faire face au danger. Il faut qu'on mette les moyens. Vous savez, la sécurité, c'est dans la durée. Je parle en connaissance de cause. Vous mettez un peu de moyens, quand ce n'est pas dans la durée, ça ne va pas servir à grand-chose. Ça va porter pour un temps, et après ça va... Parce que ces gens, ils sont d'une volonté, c'est-à-dire intarissable.
Déterminée.
Non, intarissable. Ils sont d'une volonté intarissable. Un militaire allemand m'a dit, entre la volonté de mourir pour aller au paradis, et la volonté de défendre son pays, il y a une grande différence. Donc ces gens-là, ils ont vraiment une volonté. Je ne sais pas où ils la puisent, mais il faut que le Mali aussi mette les moyens, qu'ils mettent le gros paquet pour la sécurité. Je sais que ça va marcher. Ne comptons pas sur les forces étrangères. Elles viendront après. Comptons sur nous-mêmes d'abord.
D'accord. Makan, est-ce que vous pensez que les autorités et les partenaires du pays font ce qu'il faut pour mettre fin à cette situation quand on parle de statu quo, vu que ça n'évolue pas positivement?
Oui, forcément, ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils font ce qu'ils peuvent faire pour mettre fin à cette situation. Mais moi, j'avais proposé une fois une solution lors de mon dernier passage ici par rapport à la situation sécuritaire. On sait que voici des gens qui sont cruels. Ce sont des criminels qui sont là et qui vivent de ça. Et leurs bases arrières sont déjà assurées parce que quand ils meurent, on le sait, voilà, quand ils meurent, leur ayant droit ont droit à quelque chose. Donc maintenant, le système qu'ils utilisent, pourquoi ne pas utiliser le même système contre eux? Ils utilisent le système de guérilla. Ils se promènent, ils repèrent nos militaires. Voilà, donc ils vont se déguiser et puis ils viennent avec un fusil, ils se mettent à tirer sur les gens. Il faut exactement la même chose. Et pour aboutir à ça, il faut un renseignement. Paul Ben a parlé de Mopti. Le gouverneur de Mopti, c'est Sidi Alassane Touré, qui a été installé par le général Amadou Aya Sandogo comme directeur de la sécurité d'État. C'est un ancien de la SUE. Donc, c'est quelqu'un qui est imprégné des systèmes de renseignement. Donc, à partir de là, et il a fait des études en renseignement également. Voilà, et des études poussées en renseignement.
Ouais, entre la théorie et la pratique, il y a souvent. Ouais.
Donc, moi, qu'est-ce que je voudrais.
Parlons du rôle de la sécurité d'État même dans cette situation.
Mais qu'est-ce que la SUE peut faire?
Vous dites qu'il faut
il faut infiltrer, ces mouvements rebelles-là, il faut les infiltrer.
Qui va faire ça?
À un moment donné, c'est l'État. Il faut des moyens pour ça. À un moment donné, je me rappelle quand ils découvraient que il y avait des agents de renseignement parmi eux, même au niveau de la population civile, ils étaient exécutés. Il y en a même qui ont été décapités. Mais donc c'est le même système. Il faut insister sur le renseignement. On ne peut pas gagner une guerre sans renseignement.
Oui, moi,
et une guerre sans renseignement, c'est sans moyen
financier. Est-ce bon d'utiliser la guérilla pour un État?
Non, Maga a parlé du renseignement. Je l'ai toujours dit. Rien n'est au-dessus d'un État. L'État, c'est l'État. Vous comprenez? L'État est capable de tout. De tout, hein? Sauf peut-être fabriquer un homme. L'État est capable de tout. Rien n'est au-dessus. Au lieu de mettre l'argent dans les guirlandes pour le 31 décembre...
Non, il paraît que c'est quelqu'un qui l'a fait gratuitement.
Prenez cet argent, dites à la personne, vous êtes volontaire, vous voulez financer. Bon, nous, on ne veut pas des guirlandes. On est en récession, on est en crise.
Entre parenthèses, est-ce que ça ne relève pas de la communication quand on voit les rumeurs qui circulent et que l'État ne soit pas pour annoncer que c'est quelqu'un qui l'a fait? travailler gratuitement.
Alors oui, je pense que effectivement, de toute façon, c'est à chaque fois pareil. Hein, on a un problème de communication. Il est très clair qu'on a un problème de communication. D'après ce que j'ai entendu dire, et je salue cette dame, c'est une opératrice qui, c'est son travail de faire ça. Donc elle veut montrer aux gens qu'elle sait le faire. C'est son droit. Elle veut embellir sa capitale. Ok, ça nous donne un peu de gaieté dans ces temps qui sont un peu durs et dans cette froideur de Bamako. On va pas le refuser.
Mais l'État peut lui donner des orientations. Bon, donnez-nous de l'argent.
Peut-être qu'elle n'utilise pas l'argent.
Dans la sécurité, j'ai dit cet argent, on peut l'utiliser. Oui. On peut l'utiliser. Il y a des gens très très bien au Mali qui veulent faire des actions salutaires. Utilisons cet argent pour renforcer notre sécurité. Les renseignements, tout bon Malien, je l'ai toujours dit, tout bon Malien est un bon agent de renseignement. Faudrait-il qu'on lui donne les moyens, qu'on lui mette dans les conditions, qu'on lui demande que tu es utile pour la société par rapport à ça.
D'accord.
Tout Malien. Donc
l'État,
on peut le faire.
L'État peut tout faire comme Paul le pense par rapport aux renseignements. Pourquoi n'évolue-t-on pas?
Bah oui, on a toujours entendu. Moi, je me souviens quand j'étais gamine d'un fameux film Raison d'État. Ça m'avait marqué parce qu'on tuait des gens et on faisait tout et n'importe quoi au nom de la sécurité de l'État. Quand on voit les séries américaines, on le voit très bien. Donc je sais qu'au Mali, nous sommes dans ce même état d'esprit. C'est peut-être une question de moyens et puis c'est peut-être une question aussi de mentalité.
Exactement.
Il faut dire aussi que ce qui nous arrive est nouveau pour nous. Nous avons toujours eu un état débonnaire, un état bon papa.
Et c'est voilà. Et cet état qui a toujours dit ça c'est pas ton boulot, ça c'est pas votre boulot, vous ne pouvez pas nous enseigner notre boulot. C'est ce qu'on entend dans les postes de police.
Donc voilà.
Par rapport aux gens, je voudrais dire quelque chose, Mamadou.
En fait, je voudrais rebondir sur ce que Paul a dit par rapport à l'état d'esprit de nos forces armées. Et je voudrais saluer vraiment, avec votre permission, toutes les femmes et tous les hommes qui sont au front en ce moment, laissant les familles et dans le froid, dans les difficultés. Et pour dire que vraiment, quand vous les voyez aujourd'hui, vous sentez que la posture a changé. Mm-hmm. Vous le sentez, ça se sent. Voilà. Rien que de les voir arrêter, vous vous sentez rassuré. Et ça, je me souviens que sur votre même plateau, j'avais fustigé le fait qu'on ne les sentait pas conscient de ce qui se passait. Ça a vraiment changé. Et je voudrais saluer cela. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Maintenant, il faut une constance des moyens. L'un et l'autre l'ont dit tout à l'heure. Il faut une constance des moyens. Il faut que ces jeunes, parce que la plupart sont des jeunes les plus âgés, sont dans les bureaux à Bamako, que ces jeunes se sentent soutenus. Que ces jeunes sachent que s'ils perdent la vie, parce que malheureusement ça continue d'arriver, c'est pas 100 000 francs et un sac de riz à la famille. Il faut qu'ils sachent que leur sacrifice a de la valeur pour la nation. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils seront, je vais pas dire ça, permettez-moi de le dire, ils seront aussi prêts à mourir pour la nation que prêts que les autres qui sont prêts pour les 12 vierges. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Donc il est important vraiment que ce changement de posture soit accompagné par une volonté affichée et qu'on communique aussi vers la population pour lui faire comprendre que il se passe des choses. Il faut que vous soyez avec nous dans le sens du renseignement parce que vous voyez, nous on est dans les communautés. Il y a des gens au Golfe qu'on connaît, personne ne parle. Voilà, pour donner qu'un exemple.
D'accord. Également, quand on parle de ces djihadistes, ils sont également soutenus. Certains ont dénoncé, par exemple, le Qatar, l'émir du Qatar était là dans le pays récemment. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la situation?
Ça ne va absolument rien changer parce que l'émir du Qatar, certainement, on sait, le Qatar cherche maintenant à avoir des amis. À avoir des amis, c'est tout. Au Burkina, vous voyez qu'il est allé là-bas et ils ont décidé de financer des choses. Vraiment, lui, il vient avec de l'argent et il veut chercher à se blanchir. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à nos jeunes militaires, ce sont des jeunes qui terminent immédiatement leur formation, mais avant qu'ils ne terminent leur formation, ils subissent des cours. Ils prennent des cours par rapport à la défense des droits de l'homme. Vous voyez? Donc, qu'on arrête d'agresser l'armée malienne, parce que cela se fait également au nom de certaines associations dites de défense des droits de l'homme qui agressent l'armée malienne pour dire que oui, quand on arrête les prisonniers, il y a des exactions, il y a ceci, raison pour laquelle même on nous refuse de rentrer à Kidal. Alors que des formations sont faites pas tout au long de leur formation. Donc il faut qu'on arrête.
Donc vous pensez que ces déclarations ne sont pas fondées?
C'est pas fondé, ce n'est que du mensonge. Et puis, deuxièmement, ce que je voudrais dire également, MINUSMA et Barkhane, qui nous aident dans le domaine du renseignement quand même, les téléphones satellitaires que ces rebelles utilisent, ils interceptent la communication. ils le savent pertinemment. Mais ils ne font que dire ce qui les arrange et cacher ce qui les dérange.
Il y a une dernière fois. Oui. Bon, je partage vraiment. Moi, je crois que dans le renseignement, ils sont plus outillés que nous.
Par rapport aux déclarations des.
Oui. Vous savez, quand ils déposent des mines, qu'ils font sauter nos véhicules et qu'ils attaquent nos militaires, qu'ils les tuent, on ne voit pas ça dans les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch.
Les viols.
Quand ils violent, quand ils arrêtent, on ne voit pas ça dans les rapports. Mais quand ils ont des témoignages que bon, il y a l'armée malienne qui est rentrée à Sidou ou bien quelque part pour arrêter des gens et tout ça, on les retrouve en fin d'année ou bien trimestriellement dans les rapports. D'accord. C'est pas une bonne chose. Je voulais terminer tout juste avec un point. C'est que je demande au chef de l'État actuel ou futur. Je demande que chaque fois qu'un de nos porteurs d'uniforme, parce qu'il n'y a pas que les militaires, porteurs d'uniforme perd la vie, qu'on mette un point d'honneur à chaque fois qu'on fasse des cérémonies nationales. Ça remonte le moral.
Qu'on fasse, vous voyez, on n'est pas
mieux que la France n'est pas mieux que nous. Mais chaque fois qu'un soldat, qu'un militaire, qu'un porteur d'uniforme meurt, on organise des funérailles nationales. Ça montre aux porteurs d'uniforme que l'État est avec eux. Mais quand un militaire meurt dans l'anonymat, il est enterré dans l'anonymat.
Ils ne sont pas morts pour rien. Alors, deuxième sujet de ce débat, nous allons parler des affrontements qui ont eu lieu ce mardi 19 décembre entre les étudiants de la faculté des sciences techniques et technologiques FAST sur la colline de Badlabougou. Un bilan provisoire qui a fait état d'un mort et trois blessés graves. Sur les lieux, la police a récupéré des petits couteaux, des machettes et des armes à feu. Alors, Makan Konaté, vous êtes un ancien membre également de cette association, l'AIM. Qu'est-ce qui explique toute cette violence ? En milieu universitaire.
Merci. Je le reconnais, j'ai été un ancien membre de l'AIM. Je suis de la promotion 91-93. Donc l'AIM a été créé par le docteur Oumar Mariko pendant que j'étais au lycée Aska. Bon, vous voyez ce qui se passe présentement au sein de l'AIM. C'est purement pour des intérêts. C'est des intérêts économiques. Vous voyez, l'État a baissé tellement les bras à tel point que l'autorité scolaire se trouve bafouée.
Mais est-ce que l'État ne sait même pas trop pas dossier sur l'AIM?
Bon. Et il y a eu la politique qui a infiltré ce mouvement-là. Vous voyez? Comment est-ce qu'on peut comprendre que au niveau d'une université, le parking moto est dirigé par le bureau de l'AIM, que le campus, les chambres sont dirigées par l'AIM, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent, et tout ce qu'il y a comme achat concernant l'école ou bien l'université passe forcément par le bureau de l'AIM. Donc, vous voyez...
À votre époque, c'était pas comme ça?
Non. L'AIM n'était mêlé à rien. Nous n'avons que des revendications qu'on posait, mais l'AIM ne se mêlait pas de problèmes d'argent. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont mêlés à des problèmes d'argent. Il y en a qui ont des sous-traitants. Il y en a qui sont en train de construire pendant qu'ils sont des étudiants. Il y en a qui se marient étudiants. Vous voyez, donc, c'est des choses, quand on habitue les enfants à de l'argent, eh bien, finalement, forcément, ils vont prendre des armes parce que c'est pour des questions d'intérêt. Donc, moi, ce que je propose même, c'est qu'il faut, aujourd'hui, à la date où nous sommes, il faut dissoudre. Il faut dissoudre l'AIM. Parce que l'AIM est un fléau social aujourd'hui et qui crée de sérieux problèmes à l'éducation de nos enfants. C'est un véritable fléau. Il faut dissoudre ce mouvement-là.
Intérêt économique et politique, parce que certains pensent que ce soit l'État, l'opposition ou même la junte les a utilisés.
C'est ce que je me suis introduit un peu dans la déclaration, tout juste dans l'intervention de Maka. Je disais que l'État s'est adouci. Ça, on l'a vu, hein. On l'a vu depuis longtemps. Moi, je l'ai senti quand j'étais étudiant, je suis de la même promotion que Maka. Déjà, il y avait des prémices. Hein. On nous a utilisés pour sortir dans la rue, marche avec barricade, marche avec ceci, pour faire tomber Moussa Traoré. Et l'État, ça a continué. Mais aujourd'hui, ça va de mal en pire. Aujourd'hui, vraiment. C'est vrai qu'on peut, on peut se marier étant étudiant, on peut construire étant étudiant, cela dépend. Mais aujourd'hui, l'AIM, c'est une véritable machine à fabriquer des sous, à fabriquer des bandits et à fabriquer des délinquants. Ce n'est pas aujourd'hui... Moi, je, je connais des gens qui, pour rester secrétaire général ou bien dans le bureau de l'AM, l'université, ça fait 4 ans, 7 ans tout au plus là au point G, mais ils font carrément 10 ans. Ils font de la prolongation pour rester dans les bons draps, les beaux draps de l'AM. Ça ne doit plus. Comme Magan l'a dit, moi, je deviens ministre de l'enseignement supérieur, ou bien de l'éducation nationale, ou bien premier ministre supérieur, je dissous l'AM. Quel que soit le prix que cela va coûter, on dissout l'AM. Dans tous les pays du monde, il y a des organisations qui représentent des étudiants, des élèves, mais pas de cette facture-là.
D'accord, on va écouter ces étudiants eux-mêmes par rapport à cette situation.
Selon les étudiants, ils attendaient des coups de feu depuis leur chambre au campus. D'après certaines sources, tout est parti d'une réunion entre deux groupes de jeunes de la faculté des sciences techniques et technologies pour la mise en place du comité de l'AIM de leur faculté. La rencontre a dégénéré, faisant un mort et 3 blessés graves. Ces jeunes se sont affrontés avec des armes à feu, des machettes et de petits couteaux. Abdoul Salam Togola, secrétaire général de l'association des élèves étudiants du Mali, AEM.
Deux groupes d'étudiants ont un petit problème de différence entre eux depuis quelques temps. Il y a le renouvellement de leur faculté qui tend à venir donc en ce moment-là. Ici, les groupes se préparent pour être élus comme comité de la faculté. C'est ce qui a dégénéré entre eux. C'est malheureusement le cas du jeune qui a rendu là. Il avait une arme portée sur lui-même, une arme artisanale qui n'avait pas de sécurité. Donc, il a la fuite dont l'arme a déclenché dans son bas ventre. On a 3 blessés gravement.
De plus en plus, les violences sévissent dans les universités et la responsabilité de l'AIM est mise en cause. Mais selon ses responsables, l'AIM n'a rien à voir avec ses affrontements sur les campus.
Généralement, l'AIM est utilisée comme une couverture pour beaucoup de gens qui ont ce comportement de violence à l'école. Ceux-là qui font ce comportement, quand vous prenez la liste des membres de l'AIM, vous n'allez trouver aucun nom de ces gens face à la liste de l'AIM. Les membres de l'AIM ne font jamais s'en donner à ces gens de comportement. Et l'AIM même est pour accompagner les forces d'ordre. C'est ce que nous avons dit. Nous avons tenu des conférences de presse pour ça. Nous avons dit à tous les étudiants de s'écarter des armes. Nous avons notre limite. Nous ne pouvons pas aussi prendre des armes pour combattre ceux-là qui ont des armes. Cela va poser tous les désordres à l'école. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de dénoncer et interpeller les autorités.
Face à la situation dégradante, l'AIM interpelle et demande aux autorités de s'investir davantage pour mettre un terme à ces violences dans l'espace universitaire du Mali. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. En attendant les résultats de cette enquête, le procès pour l'assassinat des deux étudiants sur le campus en avril 2012 reste sans suite devant les tribunaux.
Reportage signé à Sito Kanté. Célia, que pensez-vous de ces déclarations de Abdoul Salam Togola qui est secrétaire général de l'AIM?
Bon, je pense que monsieur le secrétaire général, il joue à l'autruche. Je crois qu'il joue à l'autruche parce que s'il est étudiant, ce que j'espère, il connaît les réalités de l'université du Mali. Il sait que si on veut suivre les cours, il faut payer pour être assis au premier rang parce que c'est là-bas que le micro, le pauvre micro là du professeur permet d'écouter. Il sait que pour avoir une chambre correcte, il faut payer, il le sait. Et à qui on verse cet argent? C'est pas l'AEM. Et comme l'a dit Macan tout à l'heure, à partir du moment où l'argent rentre en ligne de compte, bah écoutez, à quoi ça sert? Le rectorat de l'université sert à quoi si c'est les étudiants qui doivent récupérer les loyers des chambres? Le rectorat de l'université sert à quoi si on ne peut pas organiser le parking de l'université sans les étudiants? Je pense que il y a une fuite de responsabilité généralisée et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. La fuite de responsabilité, elle est au niveau des parents que nous sommes. Au niveau des parents que nous sommes.
Justement,
et qui n'arrivent
pas. Justement, si les étudiants, au lieu d'étudier, gèrent l'université, alors quel est le rôle de l'État?
L'État n'a qu'à récupérer son rôle. J'allais en venir là. Je parle d'abord des parents, parce que quand tu vois ton enfant, comme le dit Macan tout à l'heure, tu vois ton enfant de 23 ans qui roule dans une voiture que toi tu n'as pas la capacité de t'acheter, eh ben tu te poses des questions. Quand tu vois ton enfant qui a des comportements, il faut quoi que nous arrivions vraiment à nous demander mais qu'est-ce qui nous arrive et à faire face à cette situation, mais extrêmement dangereuse. Vous savez, ce qui va nous péter à la figure, permettez-moi l'expression, si on continue comme ça va pas être Kidal, ça va pas être le Front de Libération du Massina, ça va être nos enfants. ça va être nos enfants parce que nous ne leur donnons aucune valeur. Nous ne les laissons considérer que l'argent. Et quand je dis nous, il y a donc nous les parents. Il y a l'école, l'université elle-même, dont les dirigeants ont baissé les bras et ils laissent faire. Parce que eux aussi, ils trouvent leur intérêt dedans. Les profs trouvent leur intérêt à ce que ça se passe comme ça. Eux tous, ils gagnent de l'argent dedans. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des doyens et des consorts, je ne sais pas. Mais en tout cas, les profs, ils trouvent leur intérêt à ce que ça soit comme ça. Et l'État, alors, Paul Mbène en a parlé, Macron en a parlé. Nous tous, nous nous mettons en retrait et nous les regardons faire. Quand ces enfants-là, ils ont des armes, on l'a vu. Ça, on a vu le petit frétin, le bas du panier. Quand le haut du panier va se dévoiler, comment est-ce que nous allons le gérer? Donc, il est vraiment important qu'on arrête les faux fuyants, on arrête les discours politiques comme celui du secrétaire général là, qui apparemment est un très bon diplomate.
Selon lui, ce sont les jeunes Maliens qui sont devenus violents, ce n'est pas l'AIM seulement. Donc, ce sont les jeunes qui sont.
Il a absolument raison. Il a absolument raison. Et ces jeunes Maliens sont le fruit de quoi? De l'éducation que nous leur donnons à la maison, de l'éducation que nous leur donnons à l'école et de l'éducation qu'ils se donnent eux-mêmes à travers leur regroupement, dont l'AEM. Donc, il est important qu'on s'attaque à tout ça et que l'État prenne ses responsabilités. Cette association des élèves et étudiants du Mali, telle qu'elle est aujourd'hui, ne doit plus exister. Point barre.
Si on supprime l'AIM, qu'est-ce qui pourrait être mis en place?
Avant d'arriver à la suppression de l'AIM, vu ce qui s'est passé, il y a eu le cas de Papou, par le passé, que nous avons connu. Abdoulsalam Togola et son bureau, c'est-à-dire le bureau de coordination, l'actuel bureau de coordination, tous ces gens-là doivent aller en prison. Ils doivent être radiés des écoles. Et tous ceux qui sont mêlés dans ça, au terme d'une enquête qui va être menée, doivent être radiés de l'école. C'est-à-dire, il faut être ferme maintenant dans la gestion de l'école malienne.
Radiés, sauf que tous ceux qui ont dirigé, en tout cas, l'AIM, se retrouvent la plupart d'entre eux dans des grands postes.
Comment ça?
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Macron en est un. Il n'est pas un criminel.
Non, je ne dis pas tout le monde. Oui. La plupart.
Macron n'est pas un criminel.
Oui,
Oumar Marco, il est devenu politicien. C'est pourquoi il est député aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est le meilleur. Il a sa clinique. Il fait ses affaires. Mais il a dirigé l'AIM. Yehia Ould Zarawana, il est aujourd'hui chargé de mission quelque part. Il était chargé de mission quelque part. Bon, il a eu sa vie privée. Et il a essayé de faire valoir ce qu'il a dans la tête. Mais il n'a pas braqué quelqu'un pour qu'il soit nommé quelque part. Le docteur Oumar Mako n'a pas braqué quelqu'un pour être député ou bien pour construire sa clinique. Mais c'est pas.
Quand je vois des leaders scolaires. Payer des gardes-corps, des gros bras, pour assurer leur sécurité. Mais d'où est-ce qu'ils tirent l'argent?
Et vous savez, pourquoi ils ont besoin de gardes-corps?
Quand on organise un congrès de l'AIM, il y a deux départements aujourd'hui qui financent. Il y a le ministère de l'enseignement supérieur qui donne de l'argent, il y a le ministère de l'éducation nationale qui donne de l'argent, et souvent ça va, ça fait des millions. Ça fait des millions entre les mains de jeunes gens qui n'ont pas cette habitude-là et qui commencent à prendre des airs. C'est pourquoi, c'est-à-dire, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des blessés. Il faut les mettre en prison, il faut les radier. Ça va servir d'exemple. Tant que l'autorité scolaire n'est pas rétablie, rien ne peut y aller.
Monsieur
Tour, et il faut être ferme.
Monsieur Tour, en fin de mandat du président de ATT, on a décidé que, désormais, on va instaurer le port du casque pour les motocyclistes. Vous savez qui a poussé le gouvernement à la reculade? C'est la même association.
L'AIM.
De l'AIM. Les étudiants disent que si on leur impose le port du casque, ils vont mettre Bamako
et
à
le, et les camions le montent sur la tête tous les jours sur la route de Kabbalah.
Vous voyez un peu. Donc c'est la machine qui...
Vous proposez aujourd'hui la suppression de l'AIM.
La dissolution. Réfléchir sur comment organiser ça.
À notre temps, moi quand je venais au lycée, il y avait le conseil des responsables. Dans chaque classe, il y avait un responsable et un responsable adjoint. Vous voyez? Donc, quand il y a des décisions à prendre, c'est eux qui étaient convoqués par le proviseur ou par le censeur pour leur donner des explications. Ensuite, ils reviennent en classe informer les élèves. Oui. Et les choses se dirigeaient comme ça. Et quand ça n'allait pas également, c'est à eux qu'on s'adressait pour aller porter les revendications au niveau de l'administration. Donc, je pense qu'il faut revenir encore à cela. ce fameux conseil des responsables de classe. Il y a un responsable de classe et un adjoint. Sur l'AIM d'aujourd'hui, là,
mais aujourd'hui, doit être dissoute. Ce sont les responsables de classe qui font partie de l'AIM.
Non, ce n'est pas les responsables.
Malheureusement.
La mise en place du bureau de l'AIM se fait. Bon, à notre temps, c'était de façon très démocratique. On levait les petits doigts, on votait. Mais aujourd'hui, on élit un secrétaire général. Une fois élu seulement, donc lui, il passe avec un bureau.
C'est comme le président de la République qui choisit son premier ministre et puis son gouvernement. Quoi.
D'accord, parlons un peu de sport. Si le temps nous permet, du retour d'ATT. Situation de la crise du football malien, la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation pour la Fédération malienne de football. Cette nouvelle structure aura une durée de 4 mois. Elle sera chargée de gérer les affaires courantes de la Fédération et d'organiser une assemblée générale élective. Si la décision est saluée par le camp de Salah Babi, elle n'est pas appréciée par celui de Mamoutou Touré dit Bavier. Paul Ben, qu'en pensez-vous?
Moi, je crois qu'il est temps qu'on cesse avec ce feuilleton de la pluie et du beau temps, quoi, à la Fédération malienne de foot. Regardez un peu toutes nos équipes, je l'ai toujours dit, toutes nos équipes de foot, hein, que des cadets jusqu'au senior, toutes les équipes se battent, tous les techniciens qui les entourent se battent pour que le football malien soit sur la scène nationale et internationale, que le football vraiment ait une brillance. Mais c'est l'instance chargée de gérer ce football qui se lézarde comme ça chaque jour. On élit quelqu'un, on revient, la FIFA, la plus grosse mafia s'en mêle, elle revient. Vous voyez un peu quoi, c'est déplorable. Il faut que moi je n'ai pas trop de choses à dire sur ce chapitre parce que on en a vu assez. C'est comme
D'accord. Est-ce que le comité de normalisation mis en place par la FIFA, Célia, pourra gérer cette crise?
Ben, je l'espère pour lui. Je l'espère pour lui, puisque nous sommes retournés à la case départ. On a passé des mois, on a dépensé de l'argent, on a perdu la possibilité de participer à des compétitions à cause de cette histoire. Ben, on espère que ce fameux comité de normalisation que le ministre voulait, que la FIFA a adoubé maintenant, eh bien, va réussir à vraiment poser les vraies solutions. Parce que jusqu'à présent, on est dans le saupoudrage. On parle beaucoup et on ne fait pas grand-chose. Il faut vraiment que les choses soient posées sur la table, que tous les acteurs, vraiment tous les acteurs, et pas que ceux qui ont des intérêts économiques, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se deal, que tous les acteurs, les vrais acteurs de foot, puissent s'asseoir et dire, bon, nous, notre football, on voudrait qu'il soit comme ça, on voudrait qu'il fonctionne comme ça et avec telle personne. Et je pense qu'on a des gens de valeur dans le monde du foot au Mali. On a des personnalités qui ont montré leur abnégation, certains même leur bénévolat au service de ce sport. Nous n'avons pas beaucoup d'occasions de nous réjouir. Le foot nous en procure quelques-unes. Il faut vraiment que les chefs-là, ils s'asseyent, qu'ils se calment et qu'ils nous permettent de voir notre football briller et que nous puissions avoir des occasions de nous réjouir avec les jeunes qui se donnent, qui mouillent le maillot pour nous.
D'accord, Macan.
Vous savez, la FIFA a des statuts et règlements qui sont inviolables. Et quand la FIFA décide, hein, forcément, il faut exécuter. Même le chef de l'État, le président de la République, ne peut pas remettre en cause une décision de la FIFA. Donc, la FIFA vient de décider de la mise en place d'un comité de normalisation. Et forcément, on va aller vers ça. Mais si moi, j'étais le président de la République, hein, en tant que chef de l'État, qu'est-ce que je pouvais faire? Si j'étais lui, j'allais demander à la FIFA de suspendre le Mali, ne serait-ce qu'une année, hein, de toutes les compétitions internationales. Donc notre championnat, nous allons le gérer entre nous ici, mais pas question de compétition internationale, en attendant qu'une solution soit trouvée à ce problème-là.
De toute façon, on est qualifié pour rien du tout. Donc
voilà. Vous voyez, des chefs de famille, c'est ce que je ne peux pas comprendre, que des chefs de famille, pour des raisons économiques, n'arrivent pas à s'attendre. C'est ça la vraie raison. Et puis les supporters ne sont pas, beaucoup sont des illettrés, ça il faut le dire. Et ils ne sont pas au courant des règlements de la FIFA et de la CAF. Alors que c'est des décisions qui sont inviolables. Donc, quand une décision est prise, forcément, ça s'exécute. Mais eux, ils ne comprennent pas cela.
D'accord, Macan. Il nous reste 5 minutes. Dernier tour de table sur le retour de l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré, annoncé.
Bon, je dis, ATT personne ne l'a chassé quand il partait. Personne ne l'a dit de quitter. Et il est revenu. Bon, c'est une très bonne chose. S'il doit revenir, du moins, c'est une très bonne chose. Mais ce que je dénonce, ce que je déplore, que l'avion présidentiel, parce que j'ai écouté Jamil Bitar sur une radio étrangère, que c'est l'avion présidentiel qui va se déplacer pour aller prendre ATT à Dakar, le ramener au Mali. Et une fois arrivé au Mali, qu'il y aura une manifestation populaire pour l'accueillir, ça, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que ça peut dégénérer. Normalement, l'avion présidentiel ne doit pas aller chercher ATT.
Pourquoi ?
C'est un ancien chef d'État. Tous les chefs d'État, tous les anciens chefs d'État se déplacent, mais pas avec un avion présidentiel. Certainement que Ibeka a des intentions de récupérer les voix de ceux-là qui sont proches de ATT. C'est possible pour les futures élections à venir présidentielles. Deuxièmement, ATT, il a été impliqué dans des choses au Mali, notamment la crise sécuritaire dont on vient de parler. Hein, quand les rebelles ont quitté la Libye, ils ne sont pas venus comme ça. Ils sont arrivés au Mali avec armes et bagages. Il y a eu Aguelok. Il y a 153 de nos militaires qui ont été sauvagement assassinés. Et donc, le jeune capitaine qui dirigeait ce jour-là, hein, ces militaires-là, est un de nos anciens, parce que c'est notre jeune frère, mais c'est un ancien de l'AM. Ouais, le jeune Sekou, il était capitaine. Ils ont été sauvagement assassinés. Donc, moi, je m'oppose. Je ne suis pas d'accord pour qu'on envoie l'avion présidentiel parce que c'est notre argent qui va aller chercher ATT. Non, je ne suis pas d'accord. Et deuxièmement, qu'on l'accueille de façon grandiose, comme quelqu'un qui vient en revanchard, hein, triomphalement, je ne suis pas pour ça. Parce que ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer. Hein.
D'accord. Voilà. Paul Ben, partagez-vous l'avis de Makan Konaté ?
En partie, oui. Moi, je ne crois pas que c'était nécessaire. Peut-être que Ibeka n'a pas écouté, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que c'était nécessaire d'envoyer l'avion présidentiel chercher. Sinon, chaque fois que Moussa Traoré va se déplacer, il peut demander aussi qu'on... S'il doit se déplacer sur Paris ou bien sur Dakar, je ne sais pas où, il peut demander aussi qu'on lui amène l'avion présidentiel. Vous comprenez un peu.
Mais est-ce que c'est ATT qui a demandé l'avion présidentiel?
Non, c'est le Ibrahim Boubacar Keïta est le chef de l'État. C'est le président de la République, c'est le chef de l'État. Il a les décisions suprêmes, souvent irrévocables. C'est lui qui l'a décidé. Vous comprenez? Même si ATT n'a pas demandé, il ne devait pas le faire. Il ne devait pas le faire. Parce que comme Makan l'a dit, ça peut nous amener un peu loin. Alpha Omar Konaré, là, lui aussi, il peut dire, s'il est à 10, il peut dire, bon, envoyez-moi l'avion présidentiel. Vous comprenez un peu. Ça, c'est un... Maintenant, qu'ATT vienne, qu'on lui réserve un accueil chaleureux, ben, il a des partisans, il a des amis. S'ils organisent ça, c'est à leurs frais. Moi, en tout cas, ça ne me fait ni chaud ni froid. ATT est parti, il est revenu. Il est parti à Dakar parce qu'il avait peur de sa sécurité. Il est parti comme beaucoup de nos concitoyens sont partis. Ils étaient à un moment réfugiés au Burkina ou bien au Niger. Ils sont revenus. Moi, c'est comme si mes amis qui étaient partis au Niger pendant la crise sont revenus. C'est comme ça que je vois le retour d'ATT.
Permettez-moi.
Makan pense que s'il y a un accueil...
Il y a le cas Amadou Aya Sanogo. Pendant que ce dernier-là est en prison, c'est un avion présidentiel qui va aller chercher...
D'accord. Pense que ça peut dégénérer l'accueil.
Non, pas du tout. On a les Maliens ont d'autres chats à fouetter actuellement que d'aller se casser la tête. Pour ses partisans vont aller l'accueillir. Qu'est-ce qui va dégénérer que ATT revienne? Bon, c'est un ancien président de la République. On dit qu'il n'y a aucune charge qui pèse sur lui. On peut aller l'accueillir. Ibeka peut le recevoir en privé, comme il a dit. C'est son frère, c'est un concitoyen. Bon, c'est tout.
Hein. D'accord, c'est lié à vous.
Je ne sais pas ce que je vais ajouter à tout ce qui vient d'être dit là. C'est un acte que le président de la République apparemment veut fort. Bon, il le place dans le cadre de la réconciliation. D'accord. Comme vous l'avez dit, chers confrères, les amis d'ATT iront accueillir ATT. La presse s'intéresse à l'événement parce que c'est un ancien président qui était exilé de la suite d'un coup d'État et qui revient au pays. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute?
D'accord, et c'est ce qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nos invités, tous journalistes, je le rappelle encore, Célia Dalmeida, Paul Ben et Makan Konaté, débat réalisé par Fatmata Tougola, la mise en onde de Peting Diarra, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré et à vendredi prochain pour un autre numéro du Forum de la Presse.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Haloud Mambi. Chienne Berry.